Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Libre Ensemble. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro. Christophe Marchand, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour. Avant de vous donner la parole aujourd'hui pour parler de drogue, dépénalisation et réduction des risques, je vous propose de faire un tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde. Le nouveau livre de Jean-Philippe Schreiber vient de sortir aux éditions Liberté, J'écris ton nom, sous le titre de « La Belgique est à laïque ou presque ». L'auteur observe que notre constitution est résolument séparatrice. Toutefois, elle continue à faire la part belle aux cultes en les finançant, en admettant qu'ils interviennent dans l'enseignement public, par les cours de religion, en perpétuant leurs privilèges archaïques dans l'espace public. Dans cet essai décapant, Jean-Philippe Schreiber invite à tourner la page pour revenir à une authentique laïcité constitutionnelle. Je vous rappelle le titre de son ouvrage « La Belgique est à laïque ou presque, du principe à la réalité ». La Suédoise négocie une loi pour sanctionner lourdement les combattants à l'étranger. Les partis qui négocient la formation d'un gouvernement fédéral de centre droit envisagent d'activer la loi de 1979 interdisant le recrutement de combattants pour l'étranger afin de pouvoir sanctionner ceux qui reviennent de Syrie, a indiqué le député Théo Franken dans l'émission Terzak. En Belgique, où les départs sont recensés depuis 2012, le ministère de l'Intérieur estime qu'entre 300 et 350 résidents belges sont ou ont été impliqués dans le djihad. Équateur. Après des années de lutte politique en Équateur, les couples gays ou transsexuels ont pu inscrire pour la première fois leur union de fait sur leur document d'identité. Le mariage entre personnes du même sexe reste interdit dans ce pays de plus de 15 millions d'habitants, en majorité catholique. Le président socialiste Rafael Correa, opposé à la légalisation de ce type de mariage, avait toutefois promis d'accorder aux homosexuels la possibilité de faire inscrire leur union sur leur document d'identité. Christophe Marchand, merci d'être parmi nous. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, je vous le rappelle, est drogue, dépénalisation et réduction des risques. Vous êtes, Christophe Marchand, avocat spécialisé notamment en droit de l'homme.
Tout à fait.
La lutte répressive contre l'usage des drogues a largement montré aujourd'hui ses limites. Et la prohibition en vigueur a aggravé les problèmes sociaux, sanitaires et sécuritaires. Le Centre d'Action Laïque, dans une perspective anti-prohibitionniste, a élaboré en 2002 une proposition de loi concernant le trafic des drogues illicites et des médicaments, assortie d'un projet d'arrêté royal visant le contrôle et la réglementation du commerce de toutes les drogues illicites. Que pensez-vous de la prise de position du Centre d'Action Laïque ?
Ah, je pense que c'est une prise de position qui est tout à fait d'actualité, qui est dans son temps, c'est-à-dire que c'est une problématique, les stupéfiants, l'usage de drogue, qui couvre beaucoup de domaines de la société, le social, le médical, le politique, l'agriculture, et qui manifestement pose des tas de problèmes de santé publique, entre autres, de corruption d'un côté, de surpopulation des prisons de l'autre. Et donc il faut à un moment donné que le monde politique et les citoyens aussi puissent s'approprier cette thématique et changer de politique si c'est nécessaire. Et je pense que la proposition du CAL va dans ce sens-là et est tout à fait favorable.
Oui, c'est bien que vous nous parliez déjà des agriculteurs et d'élargir un peu le débat. On va essayer de toucher un peu à tous ces points en 25 minutes. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque vous êtes avocat et que vous êtes vraiment en prise avec la législation, je voulais savoir ce que dit aujourd'hui le législateur sur la consommation de psychotropes en termes de dépénalisation, de décriminalisation. Je vous avoue qu'on s'y perd un peu.
Oui, je pense que la base, c'est la loi de 21, qui est une loi qui a été prise dans l'urgence parce que le phénomène des drogues était nouveau, qui est une loi très courte et qui renvoie finalement au gouvernement, donc par arrêtés royaux, de réglementer la matière. Et au départ, c'est une prohibition qui est, je dirais, absolue, hein, c'est-à-dire que la détention de n'importe quelle drogue, le transport, la fabrication, est punie d'une peine, je pense, de 3 mois à 5 ans de prison. Puis il y a eu des évolutions petit à petit parce que législateur s'est rendu compte que la thématique était peut-être un peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé le départ et que simplement interdire pénalement n'était pas l'unique solution. Et donc il y a eu une première évolution, je pense en 1979, où la loi a été un peu assouplie dans le sens où, comme on se rendait compte que les usagers de drogue retombaient continuellement, le législateur a décidé d'élargir les conditions du sursis. C'est-à-dire que pas spécialement il fallait mettre les usagers de drogue en prison à chaque fois, mais ils pouvaient bénéficier à plusieurs reprises de ce sursis, cette chance qui est donnée par le tribunal en disant vous avez commis une faute mais on vous laisse une chance, mais cette chance a été donnée alors à plusieurs reprises et ça continue encore maintenant, c'est-à-dire que quelqu'un qui est poursuivi pour détention de drogue peut bénéficier plusieurs fois du sursis contrairement à d'autres personnes, donc c'est un peu particulier. Et puis il y a eu une grande évolution enfin en 2003 où là on a appelé ça la décriminalisation ou dépénalisation, c'est-à-dire qu'il y a une distinction qui a été faite dans la loi entre le cannabis et les autres drogues. Et donc le cannabis, la détention de cannabis à des fins d'usage personnel n'est plus sanctionné de prison, mais c'est une amende de 15 à 25 euros. Alors cette amende de 15 à 25 euros, c'est la sanction la plus basse du code pénal. C'est la même sanction que pour l'ivresse publique, par exemple.
D'accord.
Hein, et donc, et à côté de ça, à côté de cette pénalisation qui existe toujours, donc on doit le rappeler chaque fois que ça reste interdit, donc le symbole de l'interdit pénal n'a pas été levé, mais à côté de la loi, alors il y a aussi des circulaires qui permettent aux policiers et aux procureurs de ne pas poursuivre si des personnes sont en possession de 3 grammes, on a parlé un moment donné de 3 grammes de cannabis, qui était la limite qui était autorisée.
Oui, au-dessus de 18 ans, on peut avoir sur soi, on pourrait avoir sur soi 3 grammes de cannabis. C'est toléré sans être réellement...
Oui, ce sont des circulaires, donc ça veut dire que ce sont des circulaires des procureurs généraux, donc ça veut dire que les procureurs dans leur arrondissement judiciaire peuvent encore faire ce qu'ils veulent, le policier dans sa rue peut encore faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est un problème qui est soulevé maintenant, c'est que certes il y a une diminution au niveau de la peine, hein, je vous le rappelle, 15 à 25 euros d'amende, c'est quand même différent de 3 mois à 5 ans de prison.
Oui, c'est assez différent.
Et d'autre part, alors, il y a cette circulaire qui dépénalise, mais qui entraîne des disparités finalement entre arrondissements judiciaires, entre quartiers, où la loi est finalement laissée, l'application de la loi est laissée à l'appréciation du procureur ou des policiers, ce qui, dans un état de droit et par rapport au principe d'égalité, n'est pas acceptable.
Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer un peu ce qui se passe chez nos voisins américains, où ça a l'air d'être de commencer à être très bien structuré chez eux, puisque je lis que dans 21 États américains sur 50, il y a un processus de modification législative qui est engagé pour autoriser la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques et récréative, et qu'au Colorado et à Washington, ils ont levé la prohibition. Que pensez-vous de ces mesures ?
Oui, c'est nouveau et c'est incroyable que ça vienne des États-Unis finalement, parce qu'on sait, quand on a étudié un peu le droit de la drogue, quand on voit son histoire, je parlais de la loi de 21 tout à l'heure, est issue d'une convention internationale qui elle-même a été fomentée, entre guillemets, par les États-Unis et par des groupes de pression.
Le pays de la prohibition,
oui,
par excellence.
Hein, que ce soit la prohibition de l'alcool à un moment donné ou la prohibition des drogues, ça participe du même mouvement, hein, des ligues de tempérance. Mais ici, là, on a une modification qui est très, évidemment, très importante, parce que ce sont les premières expériences où il y a une véritable réglementation. C'est-à-dire qu'on ne dit pas simplement « vous pouvez consommer, on ne va pas vous poursuivre », comme ça se passe dans beaucoup d'États européens, mais on dit « on va organiser l'approvisionnement, donc on va retirer l'approvisionnement finalement des mains des mafias », ce qui est un élément fondamental. Et il y a vraiment là un clivage nouveau, très important, une évolution qui est surprenante et de laquelle, à mon avis, on doit tirer des enseignements.
Oui, et puis en plus, ils veulent taxer ce parcours de distribution de culture à 35%, que cet argent irait au budget de l'école de l'État. Enfin, c'est
le projet est simple quand on voit les montants qui sont mis en place ou qui sont retirés par les mafias dans la vente et l'organisation du trafic illicite de drogue, et qu'on se dit que tous ces montants, si l'État récupère cet argent-là, il peut évidemment mener à bien mieux certaines de ses missions.
Puisque vous parlez de blanchiment d'argent, je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien. Je lisais dans la revue Politique que Roberto Saviano, qui est l'auteur de Gomorra, dans son dernier livre qui s'intitule 000 et qui est paru en 2013, démontrait comment l'argent de la drogue a sauvé les banques. C'est-à-dire que des milliards d'euros du narcotrafic ont sauvé les banques européennes, prétend-il. C'est un paradoxe incroyable.
Oui, je ne connais pas le livre, donc je ne sais pas vous réagir par rapport à l'hypothèse, aux arguments qu'il développe, mais c'est vrai que moi, je vois dans des dossiers de droit pénal du blanchiment, et on parle de montants qui sont de centaines de millions d'euros. Par exemple, le blanchiment qui est réalisé par les personnes qui cultivent le cannabis au Maroc, hein, les Rifains, et puis alors, il y a tout un circuit du blanchiment qui est mis en place avec l'argent qui arrive, qui passe en Belgique, où il est transformé en or, entre guillemets, puis envoyé par la suite dans des pays des Émirats Arabes Unis, puis placé dans des sociétés, puis revient alors après en Europe ou au Maroc. Donc il y a tout un circuit qui fait que cet argent-là, à un moment donné, est réinjecté dans l'économie. C'est ça le blanchiment. Et en effet, ce sont des montants qui sont astronomiques et qui permettent, et peut-être qui ont permis de sauver les banques, mais qui permettent de donner le nerf de la guerre qu'est l'argent, le cash à l'économie.
Pour revenir un peu au Centre d'Action Laïque, ça fait maintenant des années que le Centre a lancé le débat sur la dépénalisation. Et on voit que les idées progressent au niveau international, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est une tombée positive, mais ça n'a pas l'air de percoler auprès des politiques. Et vous savez comment vous pourriez expliquer ce blocage politique ?
En Belgique, oui, c'est un phénomène qui est parfois inexpliqué. Et ce qui est très, très particulier, la première réflexion que votre question m'inspire, c'est finalement, on a un clivage, je pense qu'il y a un clivage communautaire qui est très important entre la Flandre et Wallonie-Bruxelles, disons. Et qui est un clivage qui n'est pas, comme on pourrait le penser, où les Flamands seraient plus proches des Néerlandais avec une politique de tolérance plus importante. C'est que du contraire, c'est une politique qui est très rigide, je dirais. Et on sent bien qu'il y a des blocages au niveau flamand. Qui sont très importants, qui sont des blocages, je pense, liés sans doute à des peurs qui sont exacerbées, à une certaine moralité, à une influence encore sans doute d'une moralité catholique très, très prégnante. Je ne sais pas, je crois que c'est, là il y a un élément, en tout cas cette différence entre le nord et le sud du pays qui existe et qui fait qu'il y a des blocages. On voit ça dans la politique même, je dirais, de santé publique qui est menée par rapport à l'usage de drogue, hein, où ce sont des politiques qui sont beaucoup plus strictes, beaucoup plus organisées. Tandis qu'en du côté de Wallonie-Bruxelles, je dirais il y a des lieux où il y a beaucoup plus de différences, par exemple par rapport à la finesse du traitement, par rapport à l'usage qui est fait. Donc on sent qu'il y a moins de rigidité. L'autre élément qui est important, je pense, si on se rappelle en 1999-2001, quand il y a eu la coalition arc-en-ciel, il y a eu une note de politique drogue qui a été mise en place à ce moment-là, qui a voulu créer un changement réel de paradigme, hein, et d'ailleurs, ce qui a mené à la loi de 2003. Je me souviens même qu'au Parlement, c'est Yvan Mayer, je crois, qui a dit qu'il y a un changement de paradigme, parce que c'est la première fois, en effet, qu'il y avait un changement de la loi vers une dépénalisation. Mais cette note de politique drogue écrite à ce moment-là reste toujours la note principale de la politique des drogues menée en Belgique, reste répressive parce que le gouvernement n'a pas réussi à porter le projet, finalement. Et je pense qu'il y a une frilosité par rapport à l'opinion publique qui n'est pas spécialement non plus justifié. Je pense que si, quand on voit des sondages par rapport à la question de la réglementation des drogues ou du cannabis, les gens sont de plus en plus favorables à cette question. Mais il y a des gouvernements qui sont brûlés les ailes. On se souvient que c'était Magda Alvoud, je pense, à Galef, qui avait fait la réforme à l'époque. Après ça, ils ont pris un échec électoral incroyable, qu'ils ont attribué alors à leur politique en matière de drogue. Donc il y a des frilosités, parce que ce ne sont pas des thèmes qui sont difficiles à porter, et qui sont des thèmes, je pense, qui sont liés à l'éthique et qui doivent être portés de manière plutôt éthique.
Oui, vous parliez justement de l'évolution des mentalités. Moi, je voulais parler de la réduction des risques, parce qu'en matière de drogue, à côté des politiques de prévention, de traitement, de répression, il y a un quatrième pilier qui est la réduction des risques et qui vise, entre autres, vous en parliez tout à l'heure, à briser les clichés qui collent à l'image des consommateurs de drogue. Le Centre d'Action Laïque, via sa régionale de Luxembourg, a pris aussi l'initiative de fédérer des associations du secteur comme Modus Vivendi, Fédito, Liaison Anti-Prohibitionniste et la Ligue des Droits de l'Homme au sein d'une plateforme de réduction des risques. Ces réductions des risques, c'est aussi faire entrer dans les mentalités que la drogue, c'est aussi des gens qui prennent des médicaments, qui prennent de l'alcool, et ça on l'oublie souvent. Mais vous êtes au courant, n'est-ce pas, de cette démarche?
Oui, c'est de la réduction des risques, comme vous dites, le quatrième pilier. Au départ, la réduction des risques, ça a été un moyen pour essayer de détourner les problèmes que les intervenants en matière de santé publique rencontraient à cause de la prohibition pour aider les usagers de drogue. Et donc ça veut dire que Le point de départ, c'est une espèce de neutralité morale, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers un usager de drogue en disant tu es un toxicomane, c'est mal ce que tu fais, on va t'apporter la vérité, tu vas t'en sortir. C'est plutôt une approche neutre qui est de dire voilà, il y a un problème d'usage, il y a une situation qu'il faut gérer, pas uniquement au niveau de santé, mais aussi social, et ne pas mettre sur la personne, je dirais, un poids moral qui est important. L'exemple le plus frappant, ce sont ces petits fascicules qui ont été édités par drogue pour expliquer comment réduire les risques, réduction des risques, réduire les risques de l'usage de telle drogue. Sans dire que c'est bien ou c'est mal, sans dire que ça va vous emmener en enfer ou au paradis, c'est simplement vous dire comment l'utiliser de la manière la moins dommageable pour la santé, sans porter un jugement moral sur le fait même de consommer. Il y a comme ça ce qu'on appelle toutes sortes de dispositifs de réduction des risques. Il y a ces fascicules, il y a l'échange de seringues aussi, était un dispositif de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on va échanger des seringues. Et le problème qui existe avec ces dispositifs, c'est qu'il y a toujours, à un moment donné, une friction avec le droit pénal. Par exemple, au début, l'échange de seringues était interdit, parce qu'on considérait que c'était de l'incitation à l'usage et que donc les pharmaciens qui ont échangé les seringues et finalement permettaient à l'usager de consommer et que donc, voilà, c'était de l'incitation à l'usage qui est interdite par la loi pénale.
C'était avant le sida, ça, ou après le sida ?
Alors, le sida a été l'élément qui a vraiment permis d'ouvrir, je dirais, le débat, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une urgence de santé publique, de nouveau, qu'il fallait enrayer le mieux possible l'extension de la pandémie, puisque c'était vraiment, je dirais, beaucoup de gens étaient touchés. Et donc, à ce moment-là, les autorités publiques ont dit, OK, il faut faire quelque chose, donc on va accepter l'échange de seringues, parce qu'en effet, ça a une raison par rapport au sida, mais au-delà de ça, ça a permis aussi une nouvelle approche. Et maintenant, par exemple, lorsqu'on parle de dispensation contrôlée d'héroïne, c'est-à-dire que un médecin va prescrire à quelqu'un qui consomme de l'héroïne, un toxicomane de l'héroïne, usager d'héroïne, de l'héroïne, et cette héroïne va être consommée par cette personne. C'est aussi un dispositif de réduction des risques, parce que donc le médecin va dire voilà.
C'est encadré.
C'est encadré. Il y a un contrôle sur le produit. Il y a des lieux où les gens peuvent éventuellement consommer. Il y a une expérience à Liège qui a très bien fonctionné, mais ça se passe comme ça depuis les années 70 en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ça marche très, très bien. En Suisse, c'est aussi un dispositif qui est très, très étendu. Au Luxembourg aussi. Luxembourg, bizarrement, c'est un des pays à la pointe.
Oui, étonnamment.
Oui. J'étais assez étonné. Finalement, j'étais invité il n'y a pas tellement longtemps à une conférence là-bas au Luxembourg et j'ai rencontré tous les gens qui avaient travaillé à ça, qui est une équipe de copains, en fait, qui se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème et qui ont réussi finalement à convaincre les autorités politiques de ce qu'il fallait changer leur fusil d'épaule. Et donc, ils sont très en pointe, très en avance, notamment sur cette dispensation contrôlée d'héroïne. Autre dispositif de réduction des risques qui permet des résultats incroyables. Je dirais ça permet de sortir les gens complètement de la délinquance, de la marginalité, et qui permet de gérer autrement le problème, et qui finalement, cette réduction des risques par
la mise en place.
La mise en place de cette dispensation contrôlée d'héroïne n'est pas très loin d'une évolution. On est déjà dedans, dans une évolution vers une dépénalisation.
Mais
quand on dit
qu'il
faut faire un choix politique, mais le choix est fait. Ouais. On est déjà dans une espèce de réglementation, dépénalisation
dans la pratique,
qui ne porte pas son nom parce que politiquement, ce n'est pas acceptable. Mais c'est ça qui se passe. Il y a différents aspects comme ça, par exemple sur le cannabis, il y a maintenant tout le phénomène des cannabis social club, donc ce sont ces expériences qui viennent d'Espagne où des agriculteurs se mettent ensemble pour cultiver un ou deux plants de cannabis à des fins d'usage personnel, donc tout le monde apporte son plant de cannabis et puis on le cultive et puis on le récupère. L'expérience est faite en Belgique aussi, en Flandre, avec l'expérience Trictuplan, qui a réussi très bien et donc ça veut dire qu'on est là devant un dispositif nouveau qui est des gens, des citoyens s'assemblent, donnent un plan, le cultivent, le récupèrent. On est dans une espèce de réglementation, dépénalisation complète à ce moment-là. Donc c'est un élément qui me fait dire que il y a une évolution qui est très importante et que je suis assez, je dirais, optimiste par rapport au fait qu'à un moment donné, le gouvernement, les politiques vont prendre leurs responsabilités. Et ce qui se passe pour l'instant aux États-Unis est très important et en Uruguay aussi, parce que ça va démontrer, on imagine, en tout cas si c'est positif, que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et que donc les autres États seront moins frileux pour le faire.
Oui, et puis on a vu des personnalités comme Barack Obama ou Kofi Annan s'exprimer de façon tout à fait anticonformiste.
Oui, tout à fait. Il y a tout un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des anciens présidents, je crois, avec le président du Portugal et d'autres États qui...
président sud-américain,
qui soutiennent le changement de politique et qui veulent alors réformer la politique des Nations Unies, parce que c'est aux Nations Unies que ça que ça se joue encore.
Absolument. Ce qui m'intéresse aussi dans votre approche, c'est que vous êtes aux prises avec le juridique. Et je me demandais, enfin, je ne suis pas la seule à me poser cette question, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées pour faits liés à la drogue, hein, donc pas seulement la consommation. Donc on est entre 10 000 et 11 000 personnes qui sont détenues en Belgique. On imagine que on espère que cette décriminalisation de la consommation et du petit trafic pourrait désengorger les services de police, les tribunaux, les prisons.
Oui, c'est un des arguments, je dirais, phares et clés et importants de ceux qui disent qu'il faut changer la loi. C'est qu'en effet, on n'est pas en prison pour l'instant parce qu'on consomme de la drogue. Je veux dire, les usagers ne sont plus en prison parce qu'ils consomment de la drogue, que ce soit les usagers de cannabis ou usagers d'autres drogues, héroïne, cocaïne, le mélange. Mais par contre, pour des délits liés à la consommation, bien sûr. Alors, c'est quoi ces délits liés à la consommation? Ce sont des délits de vente. Hein, c'est-à-dire des usagers qui, pour pouvoir assouvir leur consommation, vendent des stupéfiants, ou des délits de délinquance acquisitive, comme on dit, c'est-à-dire ils volent pour pouvoir avoir de l'argent de nouveau, pour pouvoir acheter de la drogue, ou bien des délits alors qu'ils sont liés sans doute à une perte de repères, et alors, toutes sortes d'autres délits qui sont commis, que ce soit de la délinquance sexuelle ou autre. Alors, moi, je pense que ce qui est fondamental dans cette question, si jamais à un moment donné c'est réglementé, c'est que la personne qui consomme, parce qu'on voit en effet des consommations qui sont très sauvages, c'est-à-dire ce sont des mélanges d'héroïne, de cocaïne, qui sont réalisés avec de l'acétone, par exemple, et qui sont hyper addictives. Et on voit des gens qui, à un moment donné, même s'injectent parfois ces produits-là. Et je veux dire, à partir du moment où vous changez de paradigme, vous dites, OK, maintenant, vous êtes un consommateur, vous allez pouvoir acheter votre produit qu'il soit prescrit par un médecin, alors vous rentrez directement en contact avec toutes sortes de structures d'aide. Et au moins, vous n'avez pas peur de leur parler, parce qu'à partir du moment où vous consommez de manière sauvage, vous êtes marginalisé, dans la rue très régulièrement, votre famille, vous ne leur parlez plus, vous êtes vraiment petit à petit mis sur le banc de la société. Et à partir du moment où la société vient vous récupérer en disant, tu consommes, bon, peu importe, tu as peut-être un problème, on va voir ce que c'est, mais on donne le produit pour que les gens ne doivent pas voler, ne doivent pas vendre, et puissent gérer un peu leur consommation. Il est sans doute... C'est une question à l'égard de laquelle on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, est-ce que ça va désengorger les prisons? C'est simplement un idéal, voire même, on se dit, oui, raisonnablement, on peut se dire que s'il y a 30% des gens qui sont en prison pour ce type de délinquance, que ça va permettre, puisque ça permettrait qu'il y ait un tissu social plus important, de désengorger les prisons et de pouvoir alors... Je dirais toucher à une autre question qui, moi, me touche particulièrement comme avocat pénaliste, c'est évidemment d'aller en prison, qui sont des lieux qui, pour l'instant, sont des lieux tout à fait déshumanisés et qui sont terribles.
Justement, puisque vous êtes avocat, comment ça se passe? Si quelqu'un vous contacte, qu'il est consommateur de drogue et qu'il est pris dans un engrenage judiciaire, on arrive à la fin de l'émission, mais on va pouvoir en parler pendant deux minutes. Comment ça se passe? Quels sont les premiers pas?
C'est souvent les personnes, comme je vous dis, c'est souvent des arrestations qui sont dues à d'autres délits qui sont commis, vente, vol principalement. Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens sont confrontés d'abord aux policiers auxquels ils doivent faire les déclarations, l'avocat est présent, et puis après, maintenant, si les gens récidivent, parce que souvent...
Donc l'avocat est déjà présent lors
de... Voilà, ça c'est les nouveautés de l'année passée. Maintenant l'avocat est présent, mais...
À partir de quand il est présent l'avocat?
Directement. Dès la première audition à la police, on est appelé. Il y a une permanence, ou bien le client connaît son avocat. Ici, si c'est un usager de drogue, il a sans doute un parcours judiciaire, donc il a le numéro de son avocat dans sa poche parce qu'il sait qu'il peut lui arriver des problèmes. Il l'appelle, on arrive, on parle un peu avec lui, on voit un peu la situation, et on se rend compte que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire cette délinquance acquisitive, un vol ou une répétition de vol à un moment donné qui font que les policiers se disent « bon, maintenant, ça suffit ». S'il a fait 5-6, même si c'est des vols à la tire, 5-6 vols à la tire, ça suffit. Il l'envoie alors chez le procureur, et le procureur envoie alors éventuellement chez le juge d'instruction, où on est présent aussi, pour aller pour qu'il y ait un mandat d'arrêt qui soit ordonné. Et puis à ce moment-là, la personne arrive en prison, et on arrive à la situation où on doit, en tant qu'avocat, arriver à trouver une mesure alternative et faire une proposition pour une mesure alternative. Et donc, prendre des contacts avec des assistants sociaux, des endroits...
Ah d'accord, c'est l'avocat qui fait ça.
C'est l'avocat qui fait ça, oui. Okay. Malheureusement, parce qu'on a, je veux dire, c'est pas notre métier. Alors, il y a eu des projets de loi, suite 2003, prévoyaient qu'il y avait des personnes qui devaient être des experts pour aider les juges d'instruction, mais ça, c'est un dispositif trop compliqué et trop cher.
Et c'est un intermédiaire en plus.
Oui, voilà, donc ça n'a pas été mis en place dans la pratique, ça n'a pas fonctionné, hein. Ça montre un peu que finalement des essais de mesures, de demi-mesures, pour essayer à la fois, mais c'est quand même, on comprend bien que le toxicomane ne doit pas être en prison, mais on ne sait pas très bien quoi faire, puisqu'il y a la loi pénale qui est là. Hein. Beaucoup de juges nous disent parfois, mais la loi, c'est la loi. Donc je suis obligé de l'appliquer, la loi. Alors qu'on sent tous, je pense, au niveau judiciaire, en tout cas, on sent qu'il y a de plus en plus une majorité de gens qui considèrent que ce n'est pas la manière de traiter le problème de la suétude et l'usage de drogue, de mettre les gens en prison, évidemment. Mais il faut que ça passe complètement du côté pénal vers le côté médical, et la seule façon de le faire, à mon avis, c'est que l'État prenne en charge la dépénalisation et la réglementation, parce que sinon on arrivera toujours dans des demi-mesures qui sont chères et inapplicables.
Et on n'a pas de structure d'accueil assez nombreuse non plus, j'imagine.
Oui, on en a pas mal, ça fonctionne pas mal, mais c'est difficile de trouver une place, ça prend du temps, il n'y a pas des places pour tout le monde, et je veux dire, surtout, il y a toujours cette question morale pénale qui continue à peser, par exemple sur la dispensation contrôlée d'héroïne, on se rend compte que parfois, certaines personnes devraient pouvoir bénéficier de prescriptions médicales pour avoir l'héroïne et pouvoir en sortir, parce que c'est ça dont ils ont besoin, il n'y a rien d'autre qui a fonctionné, et toute la finesse n'existe pas dans le choix qui peut être offert à un usager de pouvoir sortir de là.
Pour conclure, Christophe Marchand, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on sur-responsabilise le médical. Or, on sait que le médical contre la désintoxication, ça ne fonctionne pas, les thérapies brèves, etc.
Oui, moi je pense que ça dépend vraiment d'un individu à l'autre. C'est ça qui est impressionnant avec l'usage de drogue, c'est qu'un individu n'est pas l'autre et chacun a besoin, pour pouvoir sortir de cet usage problématique, s'il est problématique, d'une thérapie, d'un traitement hyper spécifique, spécialisé, fin, et qui n'existe pas pour l'instant. Pour l'instant, on a un peu l'impression que quand quelqu'un tombe en prison pour un usage de drogue avec la délinquance acquisitive qui va avec, par exemple, des vols, eh bien, le juge d'instruction il va attendre d'avoir finalement pouvoir ouvrir son parapluie, hein, d'avoir un rapport psychiatrique qui dise voilà, ce monsieur n'est pas un danger pour la société, il peut être soigné, pour alors le libérer, hein, alors qu'on sait que la prison, ce n'est pas du tout un endroit qui soit un endroit où il pourra se soigner. Et puis alors la personne, après, il y a un taux de récidive qui reste très important, parce que la personne est libérée à la condition qu'elle suive une thérapie. Et donc, vous avez des thérapies qui sont imposées. Et donc, évidemment que ça ne fonctionne pas. Quand vous imposez une thérapie, la personne va le faire, oui, petit agneau, parce qu'elle veut bien faire plaisir à son juge et pas retomber en prison. Pas parce qu'elle va elle-même aller au fond des choses et trouver le problème et sonder ce qui ne va pas bien en elle pour pouvoir le soigner. Et donc, s'il y a là un biais qui fait que les thérapies imposées, ça ne fonctionne pas. Et c'est de nouveau lié au caractère pénal de cette problématique, qui est une problématique qui doit être en dehors du pénal et qui doit être réservé à la santé publique.
Christophe Marchand, merci de votre présence. Et vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine.
Au revoir.